Chapitre 11. Une fois de plus, nous trouvons le Seigneur en prière, et cela éveille chez ses disciples le désir d'apprendre à prier. Ils ne possédaient pas encore l'Esprit, comme nous l'avons aujourd'hui, aussi ne pouvaient-ils pas savoir ce que signifie « prier par le Saint-Esprit » Jude, verset 20, ou connaître l'aide de l'intercession de l'Esprit dont parle Romains 8, versets 26 et 27, comme nous le pouvons. C'est le Seigneur qui était alors leur consolateur et leur conducteur, en dehors d'eux. Nous avons un autre consolateur, qui est en nous. En réponse à leur désir, le Seigneur leur donne la prière modèle et il y ajoute une illustration pour appuyer la nécessité d'être importun. Si un homme veut bien se lever à minuit à la sollicitation pressante d'un ami, nous pouvons bien venir à Dieu avec confiance. Le Seigneur avait appris aux disciples à s'adresser à Dieu comme Père, et les promesses qu'il donne au verset 10 vont dans le même sens, de même que les déclarations des versets 11 à 13. Nous ne devons pas nous représenter le Père dans les cieux comme étant moins intéressé et moins attentionné que notre Père sur la terre. Il ne donnera rien d'immangeable ou de nuisible si son Fils demande à manger. Il ne donnera pas non plus, pouvons-nous ajouter, une chose inutile ou nuisible si, stupidement, nous la désirons et la demandons. On peut sans doute expliquer ainsi que maintes prières restent sans réponse. L'homme, dans son état de perdition, sait donner de bonnes choses à ses enfants. Le Père Céleste fera à ceux qui le lui demandent le plus précieux de tous les dons, le Saint-Esprit. Nous voyons ici le Seigneur continuer son enseignement en dirigeant les pensées vers les événements qui allaient bientôt se dérouler. Le Saint-Esprit ne fut pas donné avant que Jésus ne soit glorifié, comme nous le savons d'après Jean 7, verset 39. Mais quand il fut donné, il vint sur un groupe d'hommes et de femmes qui persévéraient dans la prière et la supplication, comme Acte 1, verset 14 le rapporte. Nous vivons dans la période où l'Esprit a été donné, et ainsi, nous pouvons nous réjouir dans les fruits de sa présence, de même que dans la puissance de la parole de Dieu et de la prière. Le paragraphe suivant, versets 14 à 28, présente le rejet définitif de la grâce et du Seigneur lui-même qu'il avait révélé. Ce qui conduit le Seigneur à dévoiler les terribles conséquences de ce rejet et aussi à insister encore sur l'importance de l'obéissance à la parole. Une fois le démon muet chassé, le changement chez l'homme qui en avait été la victime est impressionnant et indéniable. Pourtant, nombreux sont ceux qui choisissent de dénigrer ce qu'ils ne peuvent nier. La remarque concernant Béelzébul n'est pas attribuée aux pharisiens comme dans Matthieu. Ils en étaient sans doute les instigateurs, mais les gens du commun les soutenaient, comme Luc le rapporte ici. D'autres, fermant les yeux sur les nombreux signes déjà donnés, ont l'effronterie de demander un signe du ciel. Dans sa réponse, Jésus montre en premier lieu que leur accusation était complètement déraisonnable. Elle impliquait cette absurdité, Satan agissant contre lui-même. En second lieu, il montre que, si leur accusation était vraie, elle retomberait sur la tête de leur fils, si ce n'est sur la leur. Mais, en troisième lieu, et c'est le point le plus important, il donne la vraie explication de ce qu'il faisait. Il était arrivé sur cette scène plus fort que Satan. Avant l'arrivée de Jésus, Satan retenait ses captifs sans être aucunement inquiété. Maintenant, celui qui était plus fort libérait ces captifs-là. Sa venue mettait chacun d'eux à l'épreuve. Ils étaient soit avec lui, soit contre lui. Ne pas être avec lui équivalait à être contre lui, car il ne pouvait y avoir de terrain neutre. Les hommes pouvaient paraître s'assembler, mais si ce n'était pas avec lui, cela ne tournerait qu'à la dispersion. C'est un point que nous faisons bien de noter. Un grand mouvement se fait sentir aujourd'hui pour rassembler les gens en toutes sortes d'associations ou de groupes. Mais si ce n'est pas avec Christ, autour de lui et sous son autorité, c'est un travail de dispersion qui finira par se révéler tel. Il est clair que les versets 24 à 26 sont prophétiques. À ce moment-là, l'esprit immonde de leur ancienne idolâtrie était sorti d'Israël. Mais, bien que la maison soit balayée et ornée extérieurement, ils étaient en train de refuser celui que Dieu avait envoyé pour habiter la maison. En conséquence, l'ancien esprit immonde reviendrait avec d'autres plus méchants que lui, et ainsi leur condition serait pire que la première. Cette parole de Jésus trouvera son accomplissement lorsqu'Israël incrédule recevra l'Antichrist au dernier jour. Pourtant, tous ne le refusaient pas. Une femme du milieu de la foule comprend quelque chose de son excellence, et elle déclare que la mère du Seigneur est bienheureuse. Mais le Seigneur montre quelque chose d'encore plus heureux. La bénédiction la plus grande, pour nous, est de recevoir et de garder la parole de Dieu. Le lien spirituel formé par la parole est plus étroit et plus durable que n'importe quel lien selon la chair. Le Seigneur dirigeait les pensées de ses disciples sur ces vérités spirituelles, et écouter la parole est cette bonne part, comme nous venons de le voir dans le cas de Marie. Le Seigneur se met maintenant à parler de l'indifférence qui caractérisait le peuple au jour de son ministère. Ils demandent un signe, comme si nul signe ne leur avait été donné. Un seul signe leur reste, dont ils parlent comme du signe de Jonas. Jonas avait prêché aux Ninivites, mais lui-même aussi était un signe pour eux, en ce qu'il apparut au milieu d'eux comme quelqu'un qui était ressorti de ce qui paraissait une mort certaine. Le Fils de l'homme était à la veille d'entrer réellement dans la mort, puis d'en ressortir par la résurrection. Et ceci était le plus grand de tous les signes. De plus, il manifestait parmi eux une sagesse bien plus grande que celle de Salomon, et sa prédication allait bien au-delà de celle de Jonas. Pourquoi donc les foules n'étaient-elles pas touchées? Ce n'est pas parce qu'aucune lumière ne brillait. Les hommes n'allument pas une lumière afin de la cacher, comme l'exprime le verset 33. Le Seigneur était venu dans le monde comme la vraie lumière dont les rayons éclairaient les hommes. Ce qui était mauvais, ce n'était pas la lumière, mais les yeux des hommes. Les versets 34 à 36 font ressortir cela. Objectivement, le soleil est la lampe de notre corps, mais subjectivement, ce sont nos yeux qui en sont la lampe. Si le soleil disparaissait, il y aurait des ténèbres sur la terre entière, mais si mon œil s'éteignait, l'obscurité serait totale pour moi. Si mon œil spirituel est mauvais, mon esprit est rempli d'obscurité. S'il est simple, tout est lumière. En d'autres termes, l'état de celui sur qui brille la lumière est de toute importance. L'état des foules était mauvais. De là, leur manque de sensibilité à la lumière qui brillait en Christ. Mais si les foules ne recevaient pas la lumière qui aurait été leur bénédiction, le Seigneur allait au moins diriger les rayons de la vérité sur leur état. Il commence par les pharisiens, et le reste du chapitre nous montre de quoi il les accuse. Le pharisien qui invite le Seigneur est conforme à sa secte, critique et obsédé par des détails rituels. L'heure avait sonné pour que le censeur soit lui-même censuré et démasqué. Rien ne pouvait être plus incisif que les paroles du Seigneur. En les lisant, nous pouvons nous faire une idée de la façon dont les hommes seront sondés au jour du jugement. Leur hypocrisie est le sujet des versets 39 à 41. Propreté, entretenue avec ostentation, des endroits exposés aux yeux des hommes, boue ailleurs. Et en plus, une farouche recherche de soi se cachait sous leur apparence de piété. Ils étaient pleins de rapines. Le mot « donner » du verset 41 est en contraste avec ce terme. Si seulement ils voulaient donner plutôt que de s'emparer du bien d'autrui, toute chose leur serait nette, à l'intérieur comme à l'extérieur. Un changement aussi radical impliquerait une conversion authentique. Le verset 42 fait ressortir leur jugement perverti. Ils étaient méticuleux sur des choses qui n'étaient ni importantes ni précieuses, et ils négligeaient les valeurs les plus hautes. Le verset 43 montre que l'amour de la notoriété et de l'adulation de leurs semblables les dévorait. C'est pourquoi ils étaient devenus pour d'autres, et à l'insu de ceux-ci, des foyers de souillure, comme l'indique le verset 44. Ils faisaient tort aux autres aussi bien qu'à eux-mêmes. Accusation terrible à la vérité, mais accusation qui s'applique d'une façon affligeante, à des degrés divers et de tout temps, à ceux dont la religion n'est qu'apparence et forme. L'un des docteurs de la loi protesta alors que ces paroles constituaient aussi des injures pour eux-mêmes. L'accusation n'en fut que poussée plus à fond contre lui. ces docteurs de la loi s'affairaient à charger les autres de fardeaux. Ils légiféraient pour les autres et impudemment ne tenaient aucun compte de la loi pour eux-mêmes. De plus, ils se faisaient remarquer par leur rejet de la parole de Dieu et leur rejet des prophètes qu'il avait apportés, bien que, après que les prophètes eurent été tués, il les ait honorés en leur bâtissant des tombeaux, espérant ainsi acquérir le prestige de leur nom, maintenant qu'ils n'étaient plus jugés par leurs paroles. Habile stratagème que celui-là, mais qui n'est pas inconnu, même de nos jours. Il est facile de porter au nu, un siècle après sa mort, un homme auquel on aurait violemment résisté pendant sa vie de témoignage. Les paroles du Seigneur impliquent que ce que les pères avaient fait, leurs fils le feraient aussi. La génération à laquelle il s'adressait était coupable non seulement du sang des prophètes d'autrefois, mais du sang du Fils de Dieu lui-même. Enfin, au verset 52, nous voyons d'un côté que les pharisiens souillaient d'autres personnes, verset 44, et d'autre part, que les docteurs de la loi enlevaient la clé de la connaissance. Satan faisait de même, en empêchant les gens d'entrer dans la véritable connaissance de Dieu. Ils ont tué les prophètes et fermé le chemin de la vie. Il est clair que le Seigneur prononça ces terribles accusations sans que rien ait altéré son calme divin. Les meilleurs des hommes auraient parlé différemment. À cause de cela, nous est donnée l'injonction « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. » Éphésiens 4, verset 26. Nous péchons facilement en nous mettant en colère contre le péché. Le Seigneur n'avait pas besoin d'une telle exhortation. Ses adversaires croyaient qu'il leur suffirait de continuer à le provoquer pour le faire aisément succomber. Il ne fit rien de ce qu'il prévoyait, comme le montre le chapitre suivant.